Alors, bien évidemment, aborder cette question de la paix, c'est accepter la complexité, parce que pour entrer dans ce sujet, plusieurs entrées en matière précisément sont possibles. Et moi, j'avais envie de repartir d'un débat qui a eu lieu ici même, vendredi soir, où la question portait sur notre faculté à pratiquer l'hospitalité. Et bien évidemment, cette question a été posée sur le sujet des migrants. Et il me semble que parce que cette question engage notre humanité, dans le regard que nous sommes capables de donner à autrui, nous pourrions peut-être repartir de cette question-là. Est-ce que l'on pourrait dire, Edgar Morin, que la paix, au fond, est aussi indispensable à l'homme que ce regard que nous accordons à l'autre et qui lui permet d'exister?
Bien sûr, mais dès que vous posez cette question à une personne qui est assez calme, tout le monde vous répondra que, évidemment, la paix est préférable. Et seuls quelques excités diront que la guerre qui exalte les qualités viriles, est-ce qu'il y a mieux. Donc c'est évident. Seulement, en juillet 1914, il y avait un puissant parti socialiste français avec Jaurès qui était contre la guerre avec l'Allemagne. Il y avait en Allemagne un puissant parti social-démocrate qui était contre la guerre avec la France. Et dès le jour de la déclaration de guerre de 2 août, après qu'on ait un fanatique et assassiné Jaurès, considéré comme collaborateur des Allemands, bien entendu, et l'ensemble des socialistes français, l'ensemble des socialistes allemands s'est rué dans l'Union sacrée contre l'ennemi. Et il n'y a eu qu'un seul intellectuel européen qui s'appelle Romain Rolland, qui a écrit déjà, qui a vécu en Suisse parce que c'était trop dangereux, qui s'est élevé contre cette guerre fratricide. Alors, dans les années 30, l'expérience de la guerre de 14 était 14-18, était tellement horrible, absurde, imbécile, qu'il y avait un puissant courant pacifiste un peu dans beaucoup de partis, et surtout à gauche. Mais vous savez qu'un jeu inéluctable d'événements a conduit à la guerre et qu'une partie des pacifistes a cru bon d'adhérer au régime de Pétain pour éviter les catastrophes de la guerre, ce qui n'a pas évité la guerre mondiale. Donc, voilà la situation. Comment former les esprits à la paix? Parce qu'à l'état calme, comme je l'ai dit, tout le monde est d'accord, seulement il se crée un état d'hystérie de guerre. Et dans cet état d'hystérie de guerre, il y a un certain nombre de composants, et je dirais, moi j'ai parlé souvent à Federico Mayor, qui à l'UNESCO était un partisan d'une éducation à la paix, et je lui disais toujours, Federico, c'est pas à la paix directement, il faut changer la façon de considérer les choses. Par exemple, il faut éduquer à lutter contre l'esprit réducteur, c'est-à-dire qu'il ne voit qu'un aspect des choses et pas des autres. Et cet esprit réducteur voit toujours les défauts et les manques de l'ennemi aux besoins des Allemands et ne voit pas les aspects positifs. Il faut lutter contre l'esprit manichéen qui, de plus en plus, nous voyons, s'impose aujourd'hui de la lutte du bien contre le mal. Déjà, le ancien président des États-Unis et le nouveau se posent en incarnation du bien contre le mal, de même que, évidemment, les daéchistes et les fanatiques musulmans sont des incarnations du bien contre le mal. Donc, c'est contre l'esprit manichéen et aussi contre l'idée de culpabilité collective. Vous savez, ceux qui tirent sur une foule à Nice, ceux qui tirent ou qui lancent indistinctement des bombes sur une population civile, ce sont des gens qui pensent que tout un peuple est coupable, c'est-à-dire y compris femme, y compris enfant, y compris fœtus dans le ventre de la mère. Cette idée est encore, et cette idée revient, hein. On dit les Arabes, on dit les Roms, comme on avait dit les Juifs, les musulmans, etc. Ils sont tous collectivement porteurs du virus Alors, il y a une réforme de l'esprit que l'éducation devrait faire, devrait enseigner la complexité humaine, que les réalités sont assez contrastées, qu'il y a beaucoup de contradictions, et ce qui manque dans nos écoles, c'est une éducation pour comprendre autrui, parce que la compréhension d'autrui vaut non seulement à l'intérieur d'une famille ou d'une entreprise, mais bien entendu à l'égard des gens d'une autre croyance, d'une autre culture, d'une autre nationalité. Toutes ces choses dont je parle ne sont jamais enseignées dans notre enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Donc, à mon avis, la lutte pour la paix nécessite cette réforme de l'esprit qui est absolument nécessaire. Et je pense qu'il faut comprendre ce que c'est que l'être humain. L'être humain, malheureusement, il a deux pôles. Le pôle de ce qu'on appelle l'homo sapiens, la raison, et le pôle de la folie, de la prolémence. Et parfois, on sombre dans la folie par justement cette excitation guerrière. Et qu'est-ce qui peut contrôler tout ça? Évidemment, ce n'est pas la raison froide toute seule, qui souvent elle-même est criminelle, parce qu'on peut mettre les statistiques. Et le calcul se met au service des armes meurtrières. Non, c'est le jeu permanent entre la raison et la passion, et une passion qui peut être l'amour d'autrui, l'amitié, la compréhension, la convivialité. Et ce sont les bonnes passions qui elles-mêmes, alliées à la raison, nous conduisent toujours à l'idée à lutter contre cette agressivité, cette haine, ce mépris qui sont les ferments permanents de la guerre. Et je termine en disant, aujourd'hui, on est aussi, pas comme en juillet 14, mais on est aussi au début d'une guerre qui s'appelle, je ne parle pas seulement des conflits qui existent et qui se poursuivent au Moyen-Orient, mais d'une guerre de civilisation, d'une guerre de religion. Et par exemple, moi-même, je ne dis pas comme Jaurès, je suis traité par certains hystériques de collaborateurs des islamistes, moi qui ne crois pas en Dieu et qui ne crois aucune de ces religions monothéistes révélées. Mais enfin, aujourd'hui, que se prépare cette guerre de civilisation, cette guerre de religion, que certains croient qu'elle est fatale et que certains commencent à voir l'ensemble des autres comme immondes, c'est-à-dire c'est pas seulement les fanatiques musulmans qui voient l'ensemble du monde occidental et l'ensemble des autres musulmans modérés comme des fripouilles, des impies, des possédés du démon, mais nous allons commencer à tendre, nous, les héritiers quand même de Montaigne, de Montesquieu, de Voltaire, nous allons sombrer comme ont sombré les Vichysois et les collaborateurs dans la conscience et la messilité. Donc, je dis qu'aujourd'hui, c'est urgent. Mais il ne s'agit pas seulement de dénoncer, comme je viens de le faire. Il faut refaire l'éducation en y apportant, en y introduisant ces données-là. Voilà mon message.
Importante de portes pour entrer dans la complexité de ce sujet. Donc nous allons voir comment les autres participants y entrent, puisque chacun a sa façon. Alors pour ce qui vous concerne, Vandana Shiva, votre entrée en matière dans le sujet de la paix passe bien sûr par votre lutte pour le retour à l'autosuffisance alimentaire, votre lutte contre les lobbies semenciers. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous incluez ce sujet de la paix à l'intérieur de votre démarche, en disant qu'au fond, la guerre que nous menons contre la nature ressemble à un champ de bataille. Alors bien évidemment, c'est une guerre qui a des armes très particulières. Mais c'est par ce biais-là que vous entrez dans le sujet de la paix.
I think there are many wars to stop which we have to engage in peace. Not as a luxury, but as a necessity in today's time.
Il y a bien des chemins pour arriver à la paix, ce n'est pas seulement un luxe. Il y a beaucoup de chemins qui vont nous permettre d'y arriver.
The war against the earth, the war against the planet, is the most significant because it has the potential to wipe out not just our species, but it's already wiping out other species at 1,000 times the normal rate.
Cette guerre qui a mis contre la planète est en train d'éliminer à une vitesse supersonique la planète elle-même et nous-mêmes finalement, à une vitesse mille fois supérieure à ce qui serait normal.
And then there are wars being created within every society, whether they be along lines of religion, as I mentioned, or lines of gender, or lines of race, and definitely class.
Évidemment, ces guerres qui sont générées au niveau de genre, au niveau de religion, comme bien sûr moral, ou quelque autre prétexte qu'il soit, accélèrent cette histoire.
I mean, you just have to look at the United States. All of these wars are the basis of on which the president was elected, managing and manipulating them, and they continue. Yeah.
Regardez les États-Unis, par exemple, toutes ces guerres qu'ils ont générées et ce qui a amené le président qu'ils ont actuellement.
And peace in that context means Black Lives Matter, women's lives matter, not having the insanity of the Las Vegas where a man decides to shoot hundreds and they can't figure out why.
On ne sait pas vraiment pourquoi une personne va tuer des centaines de personnes, mais ce problème est avec la population noire, avec l'émancipation des femmes. Personne ne sait exactement ce qui se passe, mais on voit les résultats.
And then the old style wars, now with the nuclear dimension, and then we have North Korea and the US. And I'm so happy that Nobel Peace Prize was given to a tiny group of people who've been working away for decades for a ban on nuclear weapons.
Je suis très content que le prix Nobel ait donné un petit groupe qui se bat contre le nucléaire, les armes nucléaires, puisque nous avons en ce moment, bien sûr, ces grandes puissances comme les États-Unis, cette histoire possible avec la Corée, qui nous menace tous.
And there's the war against our humanity and against our well-being. And sadly, Monsanto is engaged in every one of those wars.
Et malheureusement, il y a la guerre contre l'humanité, et malheureusement, Monsanto est engagé dans chaque phase de cette guerre contre nous.
Take the planetary war. Very deliberately, they have created a toxic lethal chemical, which is now known to be giving cancer, to have one purpose alone, to wipe out biodiversity. That's all that glyphosate does. Kill, as they said in their literature, in the negotiations, I remember, 1991, 92, in the lead up to the Biodiversity Convention, they said it has the power to kill everything green, except the plants made resistant to it.
C'est tuer la biodiversité, et bien sûr la biodiversité qu'a choisi Monsanto, puisque tout le reste, ces produits, ont le pouvoir de tout tuer, sauf bien sûr ce qui a été fait par Monsanto.
Now, that is ecocide, deliberate ecocide.
Et donc c'est un écocide en fait.
And it's also leading to genocide.
Qui va nous amener à génocide, bien évidemment.
Because there's only one reason GMOs have been spread, not because they produce more food, never, not even because they succeeded in controlling pests and weeds, but they've created super pests and super weeds.
Il n'y a qu'une raison d'avoir des OGM, c'est pouvoir créer quelque chose qui soit supérieur, soi-disant, mais pourtant qui n'est pas prouvé supérieur du tout, puisque la production est inférieure comparée à ce qui sont les petits agriculteurs.
When Monsanto brought illegally to India BT cotton, which was supposed to control pests, they violated every law. I'm still fighting cases. We've won many cases against them. The long-term one of the illegal entry is still on.
Le coton BT, contre lequel je me bats toujours, est un bon exemple. Ils l'ont introduit contre toutes les lois, faisant exactement ce qu'ils voulaient, appuyé bien évidemment par les gens du gouvernement. Et il est là et on continue à se battre contre.
They lied that they had a patent. We don't allow them to have patents on seed because I made sure we had a law, Article 3J in the patent law, that says man does not invent plants and animals, and seeds are not patented.
Alors je me suis bien occupé qu'il n'y ait pas, bien sûr, que les graines ne soient pas patentées puisque ça appartient à l'humanité. Ce n'est pas possible de patenter des plantes. Mais pourtant, ils ont essayé et ils continuent à essayer constamment.
They sold the lie that the BT technology will control pests. We now have super pests. Farmers are using more pesticides. Just in this week, more than 30 farmers have died and 800 are admitted in hospitals.
Ils ont menti, ils nous ont dit qu'avec ce coton BT, ça allait éliminer tous les parasites et autres mauvaises herbes. Ce n'est pas vrai du tout, ça a renforcé, ça a créé des nouveaux parasites, de nouvelles mauvaises herbes, beaucoup plus résistantes, évidemment. Et cette semaine, nous avons encore une fois 35 paysans indiens qui se sont suicidés à cause de cette spirale infernale dans laquelle ils tombent au niveau des graines et évidemment des herbicides utilisés.
And while Monsanto never had a patent, it lied to other seed industry and said, we have a patent, you have to collect royalties. Seed prices jumped 80,000%. Farmers got into debt. 300,000 farmers have committed suicide because of debt. This is genocide.
300 000 fermiers sont morts à cause de Monsanto, à cause de cette histoire où ils ont menti comme des arracheurs de dents, croyant qu'ils avaient donc patenté ceci, ce qui n'est pas vrai du tout, mais ça a permis d'augmenter 80 000 fois le prix de ces graines et bien sûr de mener à la ruine autant et encore plus de fermiers chaque jour.
And just like Severini's research showed that there's kidney failure because of glyphosate, that there's tumors because of glyphosate, and they attacked him, and now the Monsanto papers are out showing how the whole affair was not a Severini affair, but a Monsanto affair of lying and cheating and criminality.
Bien sûr, cette criminalité, ce génocide qu'ils ont produit est en train d'être prouvé maintenant, et ça a pris des années à pouvoir démontrer toutes ces choses, puisqu'ils ont tellement bien caché, ils ont su acheter les uns et les autres.
And because I was working with the farmers, we were looking at the suicide, we were tracking which suicide was because of which debt, and 85% was so clearly BT cotton. They attacked me for just showing that they were driving Indian farmers to suicide.
80% donc de ces fermiers sont morts à cause du coton BT et ils ont terminé. C'est prouvé ça sur le terrain, nous avons visé cas par cas, où ils avaient leur dette, pourquoi. Et nous avons bien sûr trouvé cette réponse, 80% en effet, c'est que nous comptons au coton BT, qui est une des plus grandes industries.
So my little effort at creating peace in the context of Monsanto's wars are first saving seeds, and I'm so happy that because we saved seeds, farmers have an alternative and can grow non-GMO seeds.
Alors sauver les graines, c'était une alternative aux fermiers pour ne pas qu'ils se servent des OGM, bien évidemment. C'était mon importation, c'était ma lutte, c'est ma lutte constamment pour qu'il y ait toujours cette biodiversité et que le fermier soit mis à la place qu'il doit occuper.
And with our seeds, which are not designed for chemicals, we can do good organic farming, good agroecology, and our work is showing that we can produce food for 2 times the world population by protecting other species and agriculture of non-violence and peace. We grow more food and we grow more nutrition.
Et en protégeant cette agriculture, en ayant cette diversité, nous pouvons produire 2 fois plus et donc pouvoir alimenter l'humanité. Ce qui est un résultat extraordinaire comparativement à ce que nous promettent Monsanto Company.
And our farmers who have their own seed are practicing agroecology, have created local markets like the schools of this area are creating. They are earning 10 times more than the farmers trapped in the treadmill of chemicals, GMOs and commodity production.
Et nos fermiers, quand ces installations éco-agricoles se développent, comme se développent ici aussi, ils sont en train de gagner beaucoup plus qu'ils gagnaient avant, en vendant aux grands acheteurs, des grands supermarchés et autres grandes compagnies. Donc le bénéfice est meilleur pour tous, pour nous, parce que nous avons l'assiette, pour ceux qui travaillent la terre, pour qu'ils soient récompensés justement.
But the last thing I want to say is link the question you asked, Edgar, on hospitality with Monsanto's war. Well, when you create scarcity, you kill the bees, you kill the butterflies, you kill all the greens, you actually have scarcity, you've made the planet inhospitable for species.
Quand on commence à tout tuer, comme fait Monsanto et d'autres industries avec leurs produits, on rend une planète inhabitable. Il n'y a plus d'hospitalité possible, puisqu'il ne reste plus rien. On tue les abeilles, on tue absolument tout.
When you've extracted all the wealth of the farmers and rural areas, you have created a scarcity.
Et quand on extrait, bien sûr, toute la richesse des fermiers et partout, on crée donc un trou sans fond où il n'y a plus rien, un vide.
In 1984, I did a study on Punjab and why violence erupted in the land of the Green Revolution, which was given a Nobel Peace Prize. I said, this is not peace, there's war going on. What happened?
En 1984, j'ai conduit une investigation, une enquête au Punjab, pour voir d'où venait la guerre, et au moment de la révolution verte, nous avons trouvé ses causes.
So what we have is an economic model and a technological model that creates scarcity, makes people afraid, and instead of the generosity and hospitality that communities with abundance feel, people start to have conflicts, people start to fight each other, people start to become afraid of each other.
Les gens ont peur parce que nous avons créé donc ce système économique de dépendance, technologique également, qui fait que finalement le vide est de plus en plus grand, le manque est de plus en plus grand, ça génère des conflits bien sûr entre les gens.
And very often, the scarcity is through ecological violence and through economic violence, but the answer is always diverted to religion and religious conflicts, which is why the narrative of our times has become the issue of Islamophobia, because they need it to prevent people from organizing and finding real solutions of peace, of peaceful living in their everyday lives, of peaceful food, food that creates peace.
Ce sont les aliments qui créent la paix. Ce rideau de fumée qu'on rabat tous les jours sur ces guerres de religion, sur l'islamophobie, ne sert qu'à occulter tous ces conflits qui se passent. Sans plus, on veut nous convaincre qu'il ne faut pas être ensemble, surtout pour ne pas pouvoir réagir au système.
And Gandhi gave us the best recipe for peace, not only through non-violence, at every level. He reminded us that the earth provides enough for everyone's needs, but not for a few people's greed. And when there's enough for everyone's needs, that's when peace is created.
C'est Gandhi qui a dit, à part dans sa théorie de la non-violence, que la terre produit pour chacun, pour les nécessités de chacun, mais pas pour ceux qui veulent accaparer absolument tout.
Si je me réfère à votre dernier roman, donc c'est une fiction hein, bien évidemment, elle nous renvoie à la question des attentats terroristes. Vous mettez en scène deux frères, l'un qui se prépare à commettre l'irréparable et l'autre qui tente de l'arrêter. Et quand j'ai lu votre roman, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'actualité et notamment au procès qui vient de s'ouvrir avec l'un des frères Mera. Le deuxième frère qui est soupçonné de complicité avec Mohamed Merah, celui qui a commis les meurtres. Et je pensais au frère aîné, ce frère aîné qui depuis déjà plusieurs années sillonne les routes pour dire qu'il est opposé aux tueries commises par son frère. Autrement dit, dans une même famille, un frère kamikaze et l'autre est un pacifiste. C'est ça le sujet de votre roman.
C'est l'un des sujets. Bonjour à tous. Pour moi, ça pose la question de l'origine de la violence. Qu'est-ce qui nous amène finalement à la violence? Et effectivement, dans ce livre-là, j'ai essayé d'explorer des trajectoires intimes, qui sont des trajectoires d'enfermement, parfois d'enfermement dans des territoires, comme la bande de Gaza, parfois d'enfermement dans des endoctrinements, embrigadements, à la fois politiques, à la fois religieux, puisqu'il y a des personnages qui sont aussi embrigadés dans ce qu'on pourrait appeler l'idéologie néolibéraliste moderne, d'autres qui sont embrigadés dans une folie islamiste, certains qui sont enfermés dans leur souffrance d'enfant. Et toutes ces trajectoires-là, il m'a semblé nécessaire pas simplement de les expliquer, comme on pourrait le faire dans un certain nombre d'essais intelligents sur la question, mais de les donner à vivre et à sentir, de regarder comment recréer une forme de compréhension intime, une forme de capacité d'empathie pour tous ces personnages-là et leur trajectoire. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on pourrait balayer d'un revers de main en se disant tous ces gens sont des monstres ou des imbéciles ou des gens perdus. Mais en les regardant de cette façon-là, pour moi, on est absolument pas capable d'apporter la moindre solution à ce problème. Alors que si on est capable de se relier à eux dans notre humanité et dans les ressorts de nos propres fonctionnements qui peuvent ressembler à ce que ces personnes-là vivent, alors peut-être qu'on peut trouver des voies pour les rattraper et les ramener vers nous. Et il se trouve que Il y a plusieurs éléments, moi, qui m'intéressaient particulièrement dans ces trajectoires de personnages. La première, c'est la violence qui se transmet dès l'enfance, ce qu'on pourrait appeler la violence transgénérationnelle, à la fois dans les familles, mais aussi dans les peuples. Il y a notamment un livre qui m'a passionné, qui est un livre d'un homme qui s'appelle Olivier Morel, qui est le président de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Son livre s'appelle « Oui, la nature humaine est bonne ». Il a fait une sorte d'étude extrêmement large sur la coïncidence et la correspondance entre la violence éducative dans les sociétés, dans toutes les sociétés. Il est allé regarder à la fois en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis, et l'état de la société. La façon dont les êtres humains se comportent entre les guerres, à la fois politiques, économiques. Et il y a trouvé une véritable correspondance. Il s'est beaucoup appuyé sur le travail, notamment d'une psychiatre qui s'appelle Alice Miller, qui a énormément fait de recherches sur la question, et qui montre que finalement cette soif de revanche et de domination de l'autre trouve très souvent sa source à la fois dans l'humiliation et à la fois dans l'oppression que les êtres humains s'infligent les uns aux autres depuis tout petit. Avec évidemment des violences graves, mais aussi des violences parfois plus anodines, comme fessées, claques et compagnie, mais où, là, de façon extrêmement manifeste, on dit « voilà, c'est moi le plus fort, et donc, à un moment, tu m'obéis parce que je suis plus fort que toi ». Et ça, elle dit que ça développe justement ce besoin en grandissant d'être le plus fort, et donc de pouvoir imposer sa loi. Donc ça, c'est on va dire, c'est un angle par lequel on peut regarder les choses, moi qui m'intéresse énormément. Un autre angle qui m'intéressait, c'était celui de l'altérité et de l'éducation, on va dire, pour reprendre ce que disait Edgar. Moi, dans ma vie d'avant, avant de créer Equilibri avec Pierre Rabhi, j'organisais des congrès israélo-palestiniens et j'ai organisé le premier et deuxième congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix. On réunissait 400 leaders juifs et musulmans du monde entier, on les enfermait pendant 4 jours dans un hôtel et puis on les obligeait à se parler, à prendre le petit-déj ensemble. Et parfois avec des conséquences qui nous paraissaient complètement folles. Par exemple, le jour où je me retrouve à voir un grand rabbin israélien, fondateur d'un parti qui s'appelle le Chass, qui est le parti d'extrême droite en Israël, et je le vois avec des imams marocains en train de faire comme ça, en gros. Et de chanter les prières. Et donc je vais le voir et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Et il me dit, mais moi je suis né au Maroc, donc on a les mêmes prières, et puis on a échangé des recettes, parce que lui il est né juste à côté de chez moi. Et je lui dis, mais c'est quand même fou, vous vous rendez compte de tout ce qui peut vous rassembler dans vos cultures, comparé à ce qui vous sépare, et pourtant vous êtes partie prenante d'un parti qui veut en gros jeter les Palestiniens à la mer. Autre expérience pendant ce congrès qui m'a beaucoup marqué, on avait fait sortir 21 Palestiniens de Gaza pour la première fois de leur vie. Et donc pour la première fois de leur vie, ils se retrouvent dans un hôtel pendant 4 jours avec 150 juifs, dont 30 israéliens orthodoxes, qui sont vraiment l'ennemi absolu. Et un jour, donc ces Palestiniens qui sortent pour la première fois de Gaza, impossible pour eux de rentrer dans un dialogue immédiatement avec les autres. Parce qu'ils passent une espèce de contrat moral avec ceux qui restent. C'est-à-dire que ceux qui restent leur disent « Ok, toi tu pars, mais tu dois témoigner de ce qu'on vit. Tu dois témoigner du fait que les Israéliens nous assassinent, détruisent nos maisons, etc. » Donc quand on faisait des conférences comme ça, avec des modérateurs, et qu'on essayait de les faire parler de sujets neutres, on va dire, ils se levaient et ils se mettaient à hurler « Les Israéliens nous colonisent, ils nous assassinent, etc. » Et c'était impossible de rentrer en contact avec eux, jusqu'à ce qu'ils aient pu expurger ça. Et une fois qu'ils avaient expurgé ça, ils pouvaient commencer à parler. Donc je voyais qu'ils n'étaient pas simplement des êtres humains confrontés à d'autres êtres humains, mais qu'ils étaient prisonniers de l'ensemble du contexte qui voyageait avec eux, de toute la loyauté en fait, qu'ils avaient envers leur peuple, qui depuis des décennies et des décennies étaient confrontés à cette situation-là. Et un jour, un rabbin orthodoxe américain décide de parler avec un Palestinien et d'essayer de le convaincre que la cause palestinienne se trompe et que la cause juive sioniste a raison, en gros. Et il commence à discuter après le dîner. Et il est venu nous raconter ça le lendemain. Et quand il nous raconte ça, il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, et il nous dit, en fait, on a parlé toute la nuit, et je n'ai jamais été autant en désaccord avec quelqu'un de toute ma vie. C'est-à-dire qu'on a passé toute la nuit à essayer, l'un et l'autre, de se convaincre avec tous les arguments intellectuels possibles et imaginables, et on n'y arrivait pas. Et on devenait fou. On a passé par des moments où on se hurlait dessus, des moments où on était désespéré, des moments où on avait des émotions qui nous étreignaient, etc. Et ça allait jusqu'à 6h du matin. Et à 6h du matin, en gros, ils se sont écroulés sur leur chaise, ils n'en pouvaient plus. Et on était dans un hôtel où il y avait un grand dôme, comme ça, vitré, qui nous permettait de voir le ciel et une partie du paysage autour. Et vers 6h du matin, le soleil s'est levé. Ils ont regardé le soleil, tous les deux, et ils se sont mis à pleurer. Et ils se sont mis à se prendre dans les bras. Ils n'avaient résolu aucun problème. C'est-à-dire que tout ce dont ils avaient discuté pendant la nuit était toujours entre eux. Pourtant, à ce moment-là, eux, ils ont interprété ça comme une sorte de moment de grâce, puisqu'ils étaient religieux tous les deux, hein, une expérience spirituelle. C'est comme s'ils s'étaient reconnus comme êtres humains. Et faisant partie de quelque chose de plus vaste, qui était la création, la nature, la lumière, le soleil. Et à partir de ce jour-là, ils sont devenus meilleur copain du monde. C'est-à-dire que la femme de Ed Miller, ce rabbin, quand elle cherchait son mari, elle cherchait Salra, qui était le palestinien, parce qu'elle savait qu'ils étaient tout le temps fourrés ensemble. Et moi, ce qui me paraissait complètement fou, donc lui, quand il nous racontait ça, comme je vous le disais tout à l'heure, il pleurait comme un fou en disant « mais j'ai jamais vécu une expérience aussi bouleversante ». Et je lui disais « mais Ed, mais... » Et finalement, après, vous êtes tombé d'accord ? Et il me dit « non, jamais ». Et c'était pas grave. Parce qu'ils avaient reconstruit cette capacité d'altérité. Et la dernière, donc ça c'est une deuxième approche, c'est-à-dire que à partir du moment où on est capable de retrouver cette capacité d'empathie et qui passe notamment par l'éducation à la paix, et je rejoins profondément ce que disait Edgar tout à l'heure, suite à ces congrès, une des conséquences qui a été formidable, c'est qu'ils ont entamé la révision des manuels scolaires en Israël et en Palestine. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre il y a quelques années. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle l'Histoire de l'autre, qui était un format carré comme ça, avec une ligne qui était tracée au milieu. Et il y avait deux colonnes. Une colonne qui racontait l'histoire vue par les Israéliens et une colonne qui était l'histoire vue du côté des Palestiniens. Et c'était absolument incroyable quand on regardait ça, vu de l'extérieur, parce que c'était pas la même histoire. Pas du tout la même histoire. Et c'est là où on voit, en fait, que on est enchâssé dans des récits, et que ces récits nous constituent, que ces récits font la vision du monde qu'on peut avoir. Et que tant que ces récits collectifs et individuels ne sont pas bouleversés, c'est très difficile de pouvoir accepter de rentrer en contact avec l'autre et de construire quelque chose avec lui. Et c'est pour ça, on est dans un festival du livre, que la littérature ou le cinéma ou l'art sont tellement importants. J'ai adoré ce que vous avez dit hier soir, tous les deux, avec Patrice Chamoiseau, sur la nécessité de transformer nos imaginaires, la nécessité de proposer des récits différents, la nécessité de passer par la littérature et par l'art qui vient nous chercher dans l'intime et qui vient nous permettre de nous identifier à des personnes qui n'ont rien à voir avec nous, qui nous paraissent tellement différentes. Tu parlais tout à l'heure de l'hospitalité, de notre incapacité finalement à accueillir des personnes qui sont dans une détresse terrible à l'autre bout de la Méditerranée, qui vivent des scènes de guerre, et de les accueillir chez nous, parce qu'ils nous font peur. Et pourquoi ils nous font peur? Parce qu'on se raconte des histoires par rapport à eux. Moi j'habite dans une ville qui s'appelle Dreux. Dreux c'est connu parce que dans les années 80, c'est là où le Front National a fait, dans un premier temps, des assez gros scores. Aujourd'hui, Dreux, en fait, il n'y a plus de Front National, parce qu'il y a eu tellement d'immigration et les gens vivent tellement ensemble qu'ils se sont habitués les uns aux autres. C'est ce qu'on voit aussi dans les grandes métropoles. En revanche, dans les campagnes qui entourent, là où ils n'ont jamais vu un étranger, alors là, le Front National fait des scores hallucinants, parce qu'ils voient à la télévision un certain nombre de choses et qu'ils se racontent des histoires par rapport à ça. D'où la nécessité de réinventer ces histoires et de proposer des histoires qui permettent à chacun d'entre nous d'envisager l'avenir différemment. Et je ne ferai pas le troisième parce que sinon je serai trop long et j'en parlerai tout à l'heure.
Edgar Morin, est-ce que
l'histoire que vient de nous raconter Cyril Dion sur cette négociation entre l'Israélien et le Palestinien, pour expliquer comment la paix se fait par le lien. C'est ce que vous appelez, vous, la reliance. Édouard Glissant parlait de relation avec un grand R. C'est-à-dire cette nécessité, ce qu'a dit aussi Cyril Dion, cette nécessité pour nous de rapprocher ce qui est disjoint, ce qui est séparé. Et comment est-ce que l'on peut transmettre ça, cette nécessité de la reliance ?
La transmettre par l'exemple, par l'enseignement de la pensée complexe, qui est une pensée qui relie des savoirs dispersés et qui, du même coup, essaye de relier les êtres humains entre eux par la compréhension. Et c'est évident que là-dessus, il y a un problème permanent et difficile, bien entendu. L'exemple que donnait Dion est très important, puisque dans le procès, il faut admettre que les gens puissent se faire se rencontrer, et ensuite que chacun puisse connaître la version de l'autre dans le calme le plus total. Ça, c'est extrêmement important. Mais je veux terminer en disant, puisque je pars, quelque chose sur cette guerre contre la nature, dont on parlait notre ami. C'est certain qu'elle est issue de cette conviction profonde de la civilisation européenne occidentale qui a régné et qui règne encore en grande partie que la mission de l'homme était de dominer la nature et que la nature c'était des objets à manipuler, c'est-à-dire ignorer la vie qui en même temps est sensibilité et intelligence, pas seulement chez les animaux mais aussi dans le monde végétal. Pour revenir au point fondamental qui est celui de la violence, moi je dirais qu'une chose ne peut pas être éliminée, c'est le conflit. Comme disait Héraclite, le conflit et la discorde, concorde et discorde sont toujours présents. C'est comme c'est la lutte d'Eros, de l'amour, de la violence et de Thanatos, la mort, la dispersion, la destruction. Mais ce que nous pouvons faire, nous humains, parce qu'il faut dire que les hommes portent un héritage de chasseurs chassés, avec le testostérone, avec cette possibilité d'agressivité dans l'attaque comme dans la défense, nous avons à résister par la civilisation et par la culture et par l'intelligence à l'oppulsion agressive très grande. Mais il y a une façon très importante, et c'est ça la leçon de la philosophie comme la leçon de la démocratie. Les conflits d'idées, on ne peut pas les éliminer, il faut même les cultiver, mais il faut qu'ils se traduisent dans les débats, dans la démocratie, les débats dans la philosophie, les débats. Autrement dit, le débat, la discussion substitue à la violence des chocs, à la violence physique, simplement la confrontation d'idées contraires avec un système qui permet le verdict et la régulation, comme par exemple les élections dans les histoires de démocratie. Donc, si vous voulez, nous avons à faire un problème très profond, parce qu'il est anthropologique, je répète, en nous, et surtout dans le sexe masculin, dans le genre masculin, nous avons une tendance beaucoup plus forte avec cette hormone de l'agressivité et de la violence. Il y a cette civilisation interne à faire qui nécessite aussi l'auto-examen et une grande éducation. C'est un point de vue anthropologique. Et le point de vue sociologique, c'est partout le débat, c'est la seule substitution à la violence.
Cet aspect du sujet que j'avais envie de vous soumettre, à savoir ce principe de violence qu'il a relié au sexe masculin. Vous parlez dans le dernier livre d'entretien qui est paru chez Actes Sud de la Shakti, le principe féminin. les principes féminins chez les hindous, en disant que, et Gandhi bien sûr avait déjà instauré cela, que si on arrivait à réintroduire ce principe féminin dans davantage de niveaux de décision à travers le monde, au niveau de l'entreprise, au niveau familial, au niveau politique, probablement nous aurions moins de violence dans le monde.
Because of the inbuilt violence of colonialism and later the violence in thought and economy that was structured because of the fossil fuel age and the industrial age, there has been a discounting of power in creative form, the power of nature, the power of women, and only counting violent destructive power as a force of creation. And that confusion is what we need to transcend.
Alors je pense que dû à l'exploitation de ressources naturelles, la colonisation, bien évidemment, qui est due en Inde et autre part, ça a vraiment détruit beaucoup de ce qui faisait la société elle-même. Et on doit revenir à des sources, bien sûr, plus stables.
You know, I've seen in my lifetime, my country, which is really an ancient civilization, constantly being hammered. When I was till 25, water at any place, including the desert, was available at 10 feet. They said it was primitive to not extract water in non-renewable ways with energized pumping and fossil fuels. Today we have a water famine.
Dans ma jeunesse, c'est jusqu'à l'âge de 25 ans, l'eau était facile à capter, jusqu'à était plus ou moins à une profondeur de 3 mètres 5. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais on utilisait des technologies bien supérieures. À l'époque, on disait que c'était vraiment très basique, mais pourtant, le fait est là, c'est que maintenant, nous n'avons plus d'eau, alors qu'il y en avait partout.
The most important crops for nourishment, the millets, were called primitive crops and wiped out. Literally wiped out till we got into the act with Navdanya, conserved those crops, made them popular, and they can provide 400 times the nutrition than irrigated paddy.
Le mil, par exemple, était considéré comme quelque chose de très basique, vraiment pour les pauvres, ça a été éliminé parce que ce n'était pas classe. Et pourtant, c'est un pouvoir nutritif bien supérieur à notre plante. Mais c'était totalement éliminé.
And I think in a very, very clever way, the economy of care that enhances well-being of nature and all people, which is where women have the expertise, is treated either as not work, therefore not counted,
alors, l'intervention de la femme, bien sûr, dans cette chaîne alimentaire, dans le fait de la préparation des aliments, tout ça, est contemplée comme peu de choses, inimportante. Ce n'est pas du travail, c'est toujours la même histoire de la femme au foyer qui ne fait pratiquement rien, semble-t-il. Ce sont les grandes vacances, toujours. Et elle a perdu donc cette importance, cette considération qu'il y a dans toutes les sociétés en Inde, qui est une vieille société qu'il y a toujours eu.
A few years ago, the McKinsey Corporation had done a report. The acronym was PIRA, translates into profits. And basically saying, there isn't enough profits being made because too much of the food in India is processed in the house or at the small-scale cottage level, at the artisanal level.
Alors, la transformation des aliments a une incidence, bien sûr, sur l'économie, sur la production. Selon McKinsey, ce n'était pas rentable puisque trop de cette production était faite à la maison, distribuée à la maison, ne sortait pas sur le marché.
Now the head of the McKinsey, who later went to jail for insider trading, he was with me in the World Economic Forum, and I just had a debate with World Bank and DuPont, and he was complimenting me, and I said, I'm not going to return the compliment because your report is very anti-women, because it's discounting women's knowledge, skills, and the amazing wealth and well-being they create.
Alors le président de McKinsey, d'ailleurs par ailleurs, finalement présent, lui avait une façon de vraiment éliminer l'importance, bien sûr, de la femme au foyer dans la production des aliments, d'une part, et après la cuisine, tout ce qui est la transformation des mêmes. Moi je disais vraiment, vous êtes vraiment contre la femme, c'est de la misogynie absolument, donc vous connaissez pas une chose qui est intemporelle, qui existe depuis tout le temps.
Oh, you want to keep women enslaved in the kitchen? And I said, no, we want our kitchens liberated from the corporations.
Maintenir la femme comme esclave à la cuisine, non, ce que l'on veut, c'est ne pas avoir l'esclavage des multinationales dans notre cuisine.
And I think what's happening here with the school programs is part of that transformation. And I'm not saying that only women should cook, but all I'm saying is if you want to know how to cook well, healthy, without wasting food, turn to your grandmother or your mother and every famous chef. And I meet many of them now. Every famous chef will have written a book, lovely restaurant, and so where did you get the recipe? My mother. So why do you put your name? Why do you put your mother's name?
L'homme ne peut pas cuisiner non plus. Il est un fait que quand nous adressons à tous les grands chefs, à tous les grands restaurants, les recettes, ils ont hérité de leur mère, de leur grand-mère. Mais par contre, ils n'iraient jamais leur goût. C'est toujours l'éminence grise, bien sûr, derrière, mais sur le devant de la scène, non.
So, we, you know, I think women will be the teachers for the transition, the ecological transition, the transition for non-violence, because, A, women always have to find non-violent responses to violent ways and transform a system. Otherwise, we would have no life on earth. We'd have no families. We'd have no children. Can you imagine if women implemented the logic of militarism on their babies? Who would be here?
C'est la femme qui amène le changement, bien évidemment, parce que c'est elle qui est en connexion avec la nature. C'est elle qui, bien sûr, a les enfants, mais dans un esprit qui n'est pas militariste. Donc, conséquemment, c'est elle qui amène cette révolution, qui l'amène déjà, puisqu'elle est déjà parmi nous, mais qui va faire qu'elle augmente petit à petit de plus en plus vite.
So, the ecological transition for peace with the planet, for producing food and processing food that ensures the well-being of the planet and the human community and our future generations, and the ability to be surrounded by violence. Not absorb it into your head and your heart and spread love.
Donc cette transition ne peut pas être enveloppée par la violence, c'est la femme qui la porte, bien évidemment, dans la transition, dans la production, dans la transformation. Donc, bien sûr, cette répartition de paix, du fait qu'elle doit toujours éviter le conflit, puisque c'est une de ses missions également.
Est-ce que la paix est une utopie, c'est-à-dire une chimère, quelque chose que nous entretenons, dont nous avons besoin, mais sans que ce soit une réalité objectivement réalisable ? Si elle est vivante.
Vous attendez pas à ce qu'on vous dise oui, quand même. Moi, je m'occupe aussi d'une collection chez Actes Sud qui s'appelle Le Domaine du Possible. Et donc, comme son nom l'indique, on essaye de montrer des chemins possibles pour transformer la société. Et on a un petit bouquin de Thomas Dansbourg et David Van Rebo qui s'appelle « La paix, ça s'apprend ». C'est pas la paix, c'est une utopie, c'est que ce qu'ils disent, basiquement, dans ce livre, c'est il faut pas espérer que la paix va nous tomber du ciel. Il faut que, pour revenir encore à ce que disait Edgar tout à l'heure, dès le plus jeune âge, on mette en place un certain nombre d'apprentissages qui nous permettent de faire l'expérience de la paix. Parmi les multiples façons d'y parvenir, eux, ils en dégagent trois. La première, c'est ce qu'ils appellent la pratique de la compassion. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la capacité de se mettre à la place de l'autre, de rentrer en contact avec l'autre, de pouvoir ressentir de l'empathie, et donc, en se mettant dans ses chaussures, de transformer nos points de vue, et d'arrêter simplement de voir les choses comme une opposition stérile. La deuxième chose, c'est la méditation, la pleine conscience, quelle que soit la façon dont on veut l'appeler, c'est-à-dire prendre des douches de cerveau, si on veut. C'est ce que Thomas Dansbourg raconte en rigolant. Il dit, mais c'est marrant, on a pris conscience, il y a un certain nombre d'années, qu'on a besoin de se laver tous les jours, donc d'avoir une certaine hygiène pour faire en sorte que nos corps ne pourrissent pas, ne développent pas des maladies, etc. On a pris conscience qu'il fallait faire de l'exercice physique pour que nos corps continuent à être en bonne santé, mais on n'a pas encore pris conscience qu'on a aussi besoin de pratiquer la paix intérieure, de laver nos cerveaux de tous les miasmes, de toutes les pensées, de toutes les agressions, de toutes les choses qui la polluent et qui, au bout d'un moment, en s'enquistant, finissent par déclencher de l'agressivité. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont extrêmement documentées. Je vous encourage notamment à lire « Plaidoyer pour l'altruisme » de Mathieu Ricard, qui est un livre extrêmement complet avec un spectre considérable sur toutes les recherches qui sont faites sur l'impact de la méditation et de la pleine conscience sur le cerveau. Et la troisième chose dont il parle, c'est la communication non violente, qui est une pratique qui a été inventée, ou en tout cas mise en forme par quelqu'un qui s'appelle Marshall Rosenberg. Et le principe de la communication non violente, c'est que quand de l'agressivité s'exprime, ou de la violence s'exprime, c'est lié à un besoin qui n'est pas satisfait chez un être humain. Et donc pratiquer la communication non violente, c'est s'entraîner, quand quelqu'un se met à vous traiter de gros connard, à pas simplement écouter, à dire « Oh putain, il m'a traité de gros connard, cette espèce de connard, je vais casser la gueule à ce connard !» Mais de se dire « Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ?» De pas le prendre pour nous, et de se dire « En fait, ce que ce garçon est en train de dire quand il me traite de gros connard, c'est qu'il est en train de parler de lui, de quelque chose qui est à l'intérieur de lui, et donc je vais essayer d'écouter ce que c'est. » On va descendre d'un niveau et on va se dire « Donc c'est quoi les émotions qui sont en train d'exprimer ? Ok, c'est la colère, peut-être que c'est de la peur. Bon, pourquoi ? Ah, parce qu'en fait, ce garçon a besoin, je sais pas, de sécurité, ou il a besoin de reconnaissance, ou il a besoin d'écoute. » Et donc, au lieu de lui répondre « Mais gros connard toi-même », on va pouvoir lui répondre « Ah mais en fait, vous avez peut-être le sentiment que j'ai pas du tout compris ce que vous vouliez dire, c'est ça ?» Pour avoir pratiqué déjà, et pour avoir des amis qui sont alors super formés à ce genre de technique, c'est très impressionnant parce qu'on voit un truc qui se dégonfle, ça fait pchut. Et c'est même parfois tellement impressionnant que j'ai un ami qui s'appelle Salim Ibrahim qui me racontait que parfois ça lui avait sauvé la vie. C'est-à-dire qu'il s'était retrouvé vraiment avec un type qui avait un couteau sur les glottes, et en essayant de parler à l'endroit du besoin qui n'était non satisfait de cette personne-là, mais lui c'est un cadeau, hein. Enfin, je n'ai essayé pas de le faire non plus. Il faut quand même apprendre. En arrivant à lui parler à cet endroit-là, et bien 5 minutes plus tard, le type était en train de lui raconter sa vie, au lieu d'essayer de le tuer. Donc c'est hyper intéressant de se dire que dans notre formation, aujourd'hui, il y a des pans entiers qui manquent. D'autres exemples, par exemple, vous pouvez lire un autre bouquin dans le domaine du possible, qui décidément a une série de livres vraiment extraordinaires. L'école du colibri, qui est une école dans la Drôme, dirigée par Isabelle Peloux. Elle fait de l'éducation à la paix avec les enfants, dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'elle leur apprend à gérer les conflits. Il y a des ambassadeurs de paix qui sont dans la classe et qui, quand deux élèves sont en conflit, viennent et font des médiateurs. Et grâce notamment à des techniques comme la communication non violente, leur apprennent finalement à trier entre les émotions, les besoins, ce qui a besoin vraiment d'être dit de façon plus profonde que la réaction émotionnelle soudaine. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, les enfants intègrent ça et ils le font d'eux-mêmes. C'est ce qu'ils appellent l'éducation au savoir-être. Comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble ? Comment est-ce qu'on fait pour communiquer les uns avec les autres ? Et ça, c'est quand même assez incroyable de se rendre compte que c'est totalement absent de nos modèles éducatifs. Alors que c'est une des choses les plus importantes. Parce que si on refait un focus un peu plus large et qu'on regarde effectivement l'état de la planète tel qu'il est aujourd'hui, qu'on regarde le changement climatique, la disparition des espèces, qu'on regarde la crise économique, la guerre économique, j'ai même envie de dire, qu'on regarde l'accaparement des richesses par un tout petit nombre, et qu'on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? C'est quoi la solution ? J'ai un ami, il y a quelques années, qui disait, moi je pense que le plus grand enjeu de l'humanité dans les années qui viennent, c'est pas le changement climatique, c'est pas l'effondrement des espèces, c'est pas la fin dans le monde, c'est notre capacité à créer des organisations qui vont résoudre l'ensemble de ces problèmes. Donc, notre problématique, c'est l'intelligence collective. C'est notre capacité à faire ensemble. Et on le voit partout. Quand on a tourné demain, par exemple, tous les endroits où ça marche le mieux, c'est des endroits où on voit que des responsables politiques, des entrepreneurs et des citoyens arrivent à travailler ensemble. Où les citoyens apportent de l'élan, de la créativité, où les entrepreneurs apportent leur savoir-faire, mais aussi leurs moyens, notamment financiers, ou leurs moyens d'infrastructure, et où les responsables politiques apporte la capacité de transformer cet élan et cette créativité en règles pour tout le monde, donc à accélérer le processus. Ce qu'on voit par exemple à Copenhague, où ils ont transformé les circuits de circulation pour faire en sorte qu'il y ait nettement plus de vélos, de transports en commun, de gens qui marchent. Mais ça, au départ, c'est venu des personnes. Donc, d'une certaine manière, notre capacité à apprendre, à vivre ensemble, à expérimenter la paix en nous, et ensuite à expérimenter la paix, c'est-à-dire la capacité de se parler correctement, de prendre des décisions ensemble, de réfléchir ensemble, c'est certainement l'élément crucial qui pourrait nous permettre de transformer la société demain. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher.
la parole au public. Peut-être si vous voulez réagir à l'intitulé, donc La paix comme utopie. Et puis aussi, pour rebondir sur ce que vient de dire Cyril Dion, cette idée que la paix, bien sûr, se construit et se bâtit, et que c'est un outil qui nous appartient à tous. Alors il a introduit une dimension importante qui est celle de l'empathie, et puis aussi de la pratique de la méditation. Il y a peut-être l'autre aspect, l'autre phase qui a été esquissée, mais j'aimerais peut-être que vous prolongiez, qui est celle de l'engagement, parce que vous êtes, vous, l'incarnation précisément de cet engagement, et la paix, elle se bâtit aussi par l'engagement.
I think we have to revisit the idea of utopia. That it's not something written in a book far away. It is the cultivation in our lives and our consciousness in the here and the now and our everyday.
C'est maintenant, tout de suite, qu'il faut cultiver toutes ces valeurs. Ce n'est pas dans l'utopie elle-même où on va trouver quelque chose qui est loin, peut-être loin, un peu plus pour une situation que pour l'autre. Les choses, c'est le jour à jour et maintenant.
We've kind of thought of peace that's necessary when there's obvious physical wars like the European wars and threat of war now. But when instruments of production and consumption are borrowing from instruments of war, we have the economy as permanent war.
Alors, cette paix, mais nous avons des instruments économiques et de production qui dérivent justement leur technique des guerres, ce qui a été développé comme armement et autres pendant la guerre. C'est là où nous avons un grand problème, il est difficile d'avoir la paix, cet aspect.
Every chemical used in industrial farming came from war. The pesticides, the fertilizers, the herbicides, they were designed to kill, they continue to kill. And we can do better with agroecology. The science is teaching us that, the practice is teaching us that.
Tous les produits chimiques qui existent dans l'agriculture sont dérivés de la guerre, utilisés pour tuer des gens, pour empoisonner des gens. Et nous, nous avons le pouvoir de nous servir de produits naturels, de choses qui ne tuent rien du tout, pour le bénéfice de tous.
Long before the word organic agroecology became a label, I use the word non-violent farming. Farming for peace with the earth, with the pollinators, with the earthworms, peace for the small farmers, and peace for our bodies.
Bien avant que le terme agroécologie existe, moi je parlais simplement de la paix dans la nature, de la paix dans l'agriculture, pour bien évidemment tous ceux qui sont concernés, ne serait-ce que du ver de terre, les fermiers, toute la chaîne.
The other day I was in a school because we work with schools also on nutritional literacy, on creating gardens. And I just asked the children, what's food? And the child replied, what's in the books? It's fuel for our bodies.
Alors nous avons beaucoup d'écoles de nutrition, et une fois j'ai demandé à des enfants dans une de ces écoles, qu'est-ce que ce sont les aliments? Ils m'ont dit, c'est du carburant pour nos corps.
But the problem is our bodies are not machines, and food is not fuel.
Le problème c'est que bon, nous ne sommes pas des machines, et en réalité, les aliments ne sont pas des carburants.
Food is living, in fact in India we say Annam Brahman, the creator.
Annam Brahman, le créateur, pour nous ce sont des choses vivantes, tout est vivant.
And our bodies are living, brilliant, organized, complex systems that are constantly interacting with the food we eat, which is what has interacted with everything, the sun, the soil, the sea, and give us the well-being that we have, including our mind.
Et nos corps sont en constante interaction avec ces aliments, bien évidemment, qui nous donnent le bien-être que nous recevons à travers d'eux.
The grandmothers used to say, you are what you eat, jesanna et samanna.
Nous avons le principe, bien sûr, on est ce que l'on mange, hein, ce qui vient de nos grands-mères, bien avant, avec Socrate et Platon.
Ayurveda knew that it's the digestive system that's the key to health.
Pour moi, c'est le système digestif qui est vraiment la clé de notre bien-être, de notre santé physique.
And only in the last few years, people are waking up to the fact that there's between 10 trillion to 100 trillion fellows. You know, our body is 90% other beings, only 10% human being.
Peut-être nous ne sommes que 10% humains, après le reste, ce sont des trillions de cellules différentes qui ne sont pas humaines, composées par tout ce que nous absorbons.
And they are the transformers of food to health.
Et ce sont les transformeurs de ces aliments pour la santé.
When we eat food sprayed with glyphosate, we are killing them.
Quand nous mangeons des choses qui ont du glyphosate ou autres produits chimiques, nous tuons tous ces organismes.
And the bacteria that create the enzymes that make the neurotransmitters are dying, which is why in America, the land of the great, is going to have every second child as an autistic child.
Et c'est pourquoi dans les pays de l'Amérique, les glyphosates et autres produits sont en train de vraiment donner des résultats comme quoi nous avons un sur deux enfants déjà qui sont autistes pratiquement. Là, cela s'augmente avec l'aluminium et tout ce que nous utilisons.
This is a
pour
war.
La production de renards. C'est une
This
guerre.
Is a war against our children.
C'est une guerre contre nos enfants qu'il nous faut arrêter.
And peace, then, is the utopia of getting them good food.
Et la paix, donc, c'est l'utopie, c'est qu'ils soient bien alimentés.
Utopia then becomes the school feeding program.
C'est donc l'utopie qui devient, en vérité, le programme de bon nourrissement, de bonne alimentation pour tous.
Interestingly, both the Dalai Lama and the Karmapa are now using the term, not just compassion, they're using the term courageous compassion.
Alors, Dalai Lama et Karmapa utilisent le terme de compassion courageuse, pas seulement compassion.
Because they're saying the structures of violence have to be engaged.
Car ils disent que les structures de la violence doivent être démontées, il faut les pénétrer.
And transform them into structures of peace.
Et les transformer en structures de paix.
So my dear friend Monsanto, its vision for the future is this. They've created climate change. They've created species extinction. They've bought up the world's biggest climate data company. They've bought up the world's biggest soil data company. They now want an agriculture based on surveillance and a farming without farmers, with drones going around, sending signals of big data.
Alors, mes bons amis Monsanto, qui bien sûr nous aiment tellement, ont créé une agriculture où bientôt le fermier ne sera même plus nécessaire. Nous aurons des drones pour surveiller les champs. Nous éliminerons le facteur humain, absolument.
A worldview in which there's no place for biodiversity, no place for pollinators, no place for small farmers, no place for real food is a philosophy of war.
C'est une philosophie de guerre, plus de bons aliments, plus de pollinisation, plus rien de rien, sauf ce qui est décidé par eux, simplement ce que nous aurons.
And we are so fortunate to live in a time where, with simple acts like growing good food and eating good food, we can be the ultimate makers of peace.
Et le fait de pouvoir cultiver nos aliments, cuisiner nos aliments, de bons aliments, est ce qui va aller la paix.
And we have a very beautiful, you know, utopia always makes you think of the future. One of our most amazing gifts from India is the peace prayer. Let there be peace of the sky, of the earth, of the plants, of the waters. Let there be peace of everything.
L'utopie nous fait toujours penser au futur. Mais en Inde, nous prions pour la paix, nous prions pour l'eau, nous prions pour le ciel, nous prions pour tout.
We never saw peace as just between human beings. We saw peace as a relationship.
Pas seulement entre les êtres humains.
And I think the challenge is that we will not have peace among human beings. We will not have peace within ourselves till we establish the larger peace of being part of creation.
C'est à travers la paix avec la création, d'être en relation, d'être paix intérieure que nous allons arriver.
And we're going to see in the next few years a deep contest between violence and hubris.
Ah, ce défi, nous allons voir dans les années qui viennent, bien sûr.
And
de grosses violences, de grands défis.
Versus compassion and humility.
Allons à l'encontre de la compassion et l'humanité.
We did a report on the migration crisis and the refugee issue.
Nous avons fait un rapport sur la
migration. That and our glyphosate report and our climate change report are all available on the Seed Freedom website of Navania.
Nous avons des informations sur cette migration, sur la protection des graines.
And a campaign we just launched on Gandhi's birth anniversary for non-violence. That we have to all join hands to create a poison-free world.
Où il nous faut joindre nos mains pour créer un monde sans poison.
That utopia is necessary. That utopia
is necessary. Et ça, c'est une utopie nécessaire pour tous, pour nous, pour nos enfants.
It's in our hands. It's in our farms. It's in our plates.
Dans nos fermes. C'est dans nos assiettes également.
Donc, on peut prendre quelques questions maintenant. Elles sont les bienvenues. Donc, si j'ai bien compris, pour avoir la paix dans nos assiettes, il faut quand même faire la guerre à Monsanto.
You know, that's what we all are doing. We are doing legal issues. We have the big
referendum on. Glyphosate. We got to do all that.
Nous devons faire tout cela.
But I think our biggest power is to make them redundant to our lives.
Notre pouvoir, c'est pouvoir faire qu'ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas.
That's why poison-free food and farming, a commitment we made.
C'est pour ça que l'agriculture sans poison et l'agriculture.
On a toujours besoin de faire les deux. C'est-à-dire qu'on a besoin de résister. On a besoin de faire en sorte que des lois ne puissent pas être promulguées, comme là, en l'occurrence, celle sur le glyphosate dans l'Union européenne. Et puis on a besoin, comme dit Vandana, de les rendre inutiles. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on arrête de les nourrir, nous, en donnant de l'argent à des endroits qui vendent de la nourriture qui est comme ça, de permettre aux paysans de se libérer de leur emprise en faisant une agriculture différente, grâce à la conversion à l'agriculture biologique, grâce à des pratiques agronomiques qui se développent aujourd'hui et qui sont des alternatives à ce que Monsanto leur propose. Donc c'est toujours marcher sur deux jambes, c'est pas simplement leur faire rien.
Quelle est la part de la notion de pardon dans la lutte contre la violence?
You know, the issue of pardon comes up when between two people there's been a problem of violence and then you do a pardon. But the structural process of continuing violence, if I say, Monsanto, I pardon you, go ahead, kill the butterflies, kill us, it calls for something of more permanent engagement.
Bien sûr, pardon, il y a un conflit entre eux, on voit ça, c'est très différent, mais c'est continuer. Ils partent et continuent de façon toujours, constamment.
Pardon, c'est bon.
Très différents les uns des autres, c'est-à-dire entre pardonner en santé ou effectivement être dans une relation interpersonnelle, c'est évidemment pas du tout la même chose. Après, l'important, entre guillemets, c'est de. Une des choses moi, que j'ai apprises, que j'ai trouvées extrêmement puissante dans la capacité de surmonter un certain nombre de problèmes, c'est de reprendre la responsabilité. C'est-à-dire que si vous êtes en conflit avec quelqu'un, de se dire, ok, moi je reprends toute ma part de responsabilité, et si à un moment j'ai besoin, par exemple, de pouvoir pardonner à la personne qui est en face de moi, ou que j'ai besoin de lui demander pardon pour pouvoir, moi, reprendre le pouvoir sur la relation qu'on a tous les deux, ça c'est extrêmement fort. Là, quand on parle de Monsanto, se dire, ben, bon, il n'y a pas de pardon à donner. Et de se dire, si moi je reprends la responsabilité de ce problème de Monsanto sur la planète, c'est quoi? Est-ce que j'achète des céréales aujourd'hui qui sont produites avec des blés où il y a du Monsanto dedans? Est-ce que je m'engage sur les politiques agricoles de mon pays? Est-ce que je fais pression sur mes élus pour éviter que Monsanto puisse continuer à agir de cette façon-là? Et de cette manière, pour moi, en se considérant toujours pleinement responsable au milieu de plein d'autres d'une situation que nous sommes en train de vivre, on peut avoir du pouvoir dessus. Et donc on peut recommencer à agir et éventuellement recréer une condition de paix.
Depuis le temps que vous travaillez sur la paix et l'humanité, sur quoi avez-vous l'impression d'avoir le plus avancé?
You know, when you're working for peace, you don't look for advancement.
Okay, pour la paix, on ne cherche pas de promotion.
You just do it.
On le fait.
And I think my moral imperative has the more invisible violence of the structural level of violent economies and violent technologies, which are sold in the name of progress and imposed violently on society.
Et m'occuper de cette violence invisible qu'on ne voit pas, mais qui finalement nous est imposée.
And it's a continuing task, it's not over yet. But I feel on the issue of seed that the violence of saying I'm the creator of seed, I think we've put an end to it.
Mais ce n'est pas fini par la relation avec les graines, je pense qu'on a mis une fin quand même. À ce processus, je ne suis pas le créateur des.
And 10-20 years, if we all join hands and say there's no place for poisons in our food, there's no place for poisons in our food, and our children deserve real food, I think that is something we can all work towards as an issue of peace, and it has the biggest impact.
Et si, Si nous nous mettons ensemble, nous allons arriver à éliminer tous ces poisons dans l'alimentation. C'est sûr pour nos enfants, pour nos amis.
Because 75% of the planetary destruction is because of the way industrial food is produced.
75% de la destruction, bien sûr, correspond à la façon dont sont produits ces aliments.
75% of the chronic diseases are food diseases.
70% ou 75% des maladies chroniques sont dues justement à l'alimentation, les produits qui sont utilisés dans l'alimentation.
And just look at all our societies, what are we preoccupied with?
Et regarde notre société, de quoi sont-nous préoccupés?
Cotton, glyphosate, GMOs, this is what's taking our democratic energies. So can you imagine how much our energies would be free to do constructive work if we could put this aside?
Et nous croyons beaucoup plus constructif si nous éliminons cette problématique des zones. Des OGM, des glyphosates et autres, pour s'occuper d'autres choses une fois cette chose solutionnée.
But the most important issue is the peacemaking, the peace movement can't be delegated. You know, you can't say, oh, that NGO will handle it for us.
Le mot de la paix ne peut pas être délégué. En gros, quelqu'un s'en occupera, c'est pas grave, c'est une responsabilité que nous avons tous.
Moi, je dirais que la chose sur laquelle j'ai l'impression d'avoir le plus avancé ces dernières années, c'est d'avoir permis à un nombre grandissant de personnes... Je suis en train de me demander si c'est totalement français cette phrase. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont pris conscience que nous sommes réellement en guerre contre la nature et en guerre les uns contre les autres à cause de notre modèle économique. Que comparé à il y a 10 ans ou il y a 20 ans, la conscience de ça est en train de grandir de façon extrêmement forte. Et ça, c'est quelque chose qui me touche.
Bonjour. On dit toujours qu'il suffirait que 99% des gens se soulèvent. Comme vous avez dit, on a tous des histoires différentes, des façons de les vivre différemment. Comment est-ce qu'il est possible de fédérer justement ces 99%? Est-ce qu'on a le temps? Enfin, c'est quelque chose qui prend du temps de rassembler, de débattre, etc. Et comment est-ce qu'on peut unir ces 99% contre ce tout petit pourcent qui justement nous a servi?
You know, when you realize that both nature and society are hugely self-organized, and there's interaction and interconnectedness and communication going on all the time, that's a worry we don't need to have. I mean, how do those 10 trillion microbes in our gut organize our bodies? And I think we need to take a lesson from them, how trillions can be organized to create freedom and well-being. Let's learn from the small guys.
C'est à travers notre corps, toutes les particules que nous composent, que nous pouvons arriver à la conclusion qu'en s'organisant de l'intérieur et entre nous-mêmes, nous pouvons faire et évoluer les choses, les changer. C'est cela même qui fait tout changer, puisque la nature elle-même dispose de cette organisation.
And I want to just mention, you know, Gandhi communicated this, the idea of self-organization of autopoiesis, in the beautiful word Swaraj, which means self-organizing, self-rule. Because very often, I think the old politics was, I'm going to tell them, I'm going to convince them. They got to change their minds. The new politics is, I'm going to do the right thing. And because everything's interconnected, it will spread and it will interconnect. And that's why I started the Health University, and I have a few cards of our courses for next year, because our consciousness is interconnected, our food is interconnected, our energies and our potential are interconnected. That old fragmented world of separate beings is an artificial idea of 200 years, which went with the fossil fuel age and has created the disaster. We are not separate, we are one.
C'est à partir du moment où on a commencé l'exploitation des ressources fossiles et autres, il y a 200 ans plus ou moins, on a commencé à séparer l'humanité. C'est l'organisation par nous-mêmes, dans nous-mêmes, qui fait le changement. Et ne pas la déléguer à d'autres personnes. Oh, quelqu'un va s'en occuper, il faut dire aux gens ce qu'ils vont faire. Non, c'est à nous de nous dire nous-mêmes ce que nous devons faire pour justement changer le monde.
Je vais répondre de trois façons et je vais essayer de le faire de la façon la plus rapide possible. La première, c'est qu'il n'y a pas besoin de mobiliser 99% des gens. Je crois que c'est Nietzsche qui disait ça, mais j'en suis pas sûr, ça fait un peu genre les citations sur Internet, on ne sait jamais qui c'est qui les a vraiment écrites. société bouge par ses extrêmes et vit par son milieu. En réalité, je pense que c'est plutôt de l'ordre de 20 ou 30%. Si 20 ou 30% des personnes se mobilisent, c'est peut-être même 10%. C'est considérable et ça peut avoir un effet d'entraînement sur la société qui est dingue. Quand, regardez par exemple quand le gouvernement veut changer le régime de retraite et qu'il y a 1 million de personnes dans la rue, clairement ça a un impact sur l'orientation de la société. C'est 1 million de personnes, 1 sur 66 ou 67 millions. Si demain il y a, je dis n'importe quoi, 4 millions de personnes qui se mobilisent de façon extrêmement déterminée sur ces sujets-là, ça va faire changer les choses. Première chose. Deuxième chose, je suis complètement d'accord avec Vandana, c'est-à-dire il faut commencer par soi-même. Il faut arrêter de se dire comment on fait pour changer le monde entier, parce que c'est tellement énorme que vous ne trouverez jamais de réponse à cette question-là. La première question, c'est comment est-ce que je fais moi pour me mettre en route et me mettre en accord avec mes propres valeurs, à la fois dans mes gestes quotidiens, dans ce que je fais, mais aussi dans mon métier, par exemple, dans ce que je fais, dans la chose qui mobilise le plus d'énergie et de créativité tous les jours. Imaginez que toutes les personnes qui sont aujourd'hui coincées dans des métiers qu'ils font simplement parce qu'ils ont besoin d'avoir un salaire à la fin du mois, puissent faire la chose qui les passionne vraiment, la chose pour laquelle ils ont du talent. Qu'on puisse libérer toute cette créativité, imaginez ce que ça pourrait changer dans la société. Alors qu'aujourd'hui, on est coincé dans un truc, on se dit, il faut qu'on fasse des petits gestes. Et faire des petits gestes, c'est le truc que je répète tout le temps, mais c'est un peu comme si vous disiez, moi je travaille à la centrale nucléaire, ou je travaille chez Monsanto, mais j'y vais en vélo le matin. Donc ça va, parce que je fais du vélo. Mais non, en fait le problème c'est que vous travaillez chez Monsanto, c'est pas que vous y allez en voiture. C'est ça le problème de fond. Et la troisième chose, c'est... Moi, je suis en train d'écrire un autre film, qui est une sorte de continuité de demain, qui est une fiction, où j'essaie d'imaginer comment ça pourrait se passer, un peu, la révolution, entre guillemets. Et je me suis beaucoup appuyé sur un livre, qui est un livre d'un Serbe qui s'appelle Stra Popovic, qui est un des leaders du mouvement qui a chassé Milosevic dans les années 2000 en ex-Yougoslavie. Et suite à ça, il est devenu député, et suite à ça, il a monté une ONG qui s'appelle Canva, et son métier maintenant, c'est consultant mondial en révolution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent le voir du monde entier pour dire voilà, j'habite en Malaisie, je voudrais faire la révolution, comment je pourrais. Quand je lui ai parlé sur Skype et que je lui disais que ça faisait rigoler les gens, quand je disais ça, il me dit non, dis-le, je vais m'aider avec ça, c'est un vrai métier. Et en l'occurrence, il a conseillé les gens qui ont fait la révolution en Égypte, en Ukraine, en Géorgie, donc c'est un sérieux. Et il a 7 principes. Je vous conseille de lire son livre qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, petit et sans armes » que vous trouverez chez Payot. Et il a 9 principes en fait pour mobiliser les gens. Son premier principe c'est « Commencez petit mais voyez grand ». Et il explique que la plupart du temps, quand des gens ont mené des combats de grande envergure, ils n'ont pas commencé. En fait, que, en gros, les activistes font une erreur très souvent qui est d'essayer de mobiliser la majorité de la population sur des grandes idées. Le changement climatique, les semences, les droits de l'homme, alors que la majorité des personnes s'intéressent relativement peu à ces questions. Ils s'intéressent beaucoup aux choses de leur vie quotidienne. Donc il dit, en fait, il faut que vous preniez comme une serviette en papier, vous faites une colonne, dans une colonne vous mettez vous et vos amis, et dans l'autre colonne il y a tout le reste des gens. Et tant que vous n'avez pas trouvé une action qui peut faire en sorte que tout le reste des gens viennent dans votre colonne, c'est pas la bonne action. Et donc, un exemple de commencer petit mais voyez grand, c'est l'exemple de Harvey Milk à San Francisco. Il explique qu'il n'a pas du tout commencé par les droits des homosexuels ou des LGBT, il a commencé par les crottes de chiens. Parce que les crottes de chiens, en fait, à San Francisco, tout le monde en avait marqué des crottes de chiens partout sur les trottoirs. Et les crottes de chiens, vous pouviez être noir, blanc, homo, hétéro, jeune, vieux, démocrate, républicain. Mais en fait, c'était pas clivant. Vous aviez tous envie qu'il n'y ait plus de crottes de chiens. Donc, il a lancé cette mobilisation. Et ils ont réussi, en se mettant ensemble, à faire en sorte que la ville soit nettoyée et qu'on mette en place des pratiques qui fassent qu'il n'y ait plus tout le temps des crottes de chiens. Et ils se sont dit, waouh, génial. En fait, quand on se met ensemble, on arrive vraiment à faire des choses. Et suite à ça, ils se sont dit, mais pourquoi se limiter aux crottes de chiens? C'est un peu débile. Peut-être qu'on pourrait faire ça pour des trucs plus importants. Génial. Faisons-le pour les droits des homosexuels, pour tout un tas de sujets. Et San Francisco, maintenant, est une ville extrêmement à la pointe de tout ça. Un autre principe... qu'il élabore et que moi j'aime beaucoup, c'est de dire trouver un truc qui fasse plaisir à tout le monde, où vous vous ayez en fait du plaisir à faire. Je raconte tout le temps cette histoire, mais Rob Hopkins, que vous avez vu dans le film Demain, si vous l'avez regardé, qui est ce leader du mouvement, fondateur du mouvement des villes en transition, racontait que c'est pas toujours facile de lancer une ville en transition. Parce que parfois, quand vous dites aux gens, bah oui, il y a le changement climatique et puis le pic pétrolier, et donc il faut qu'on fasse une ville en transition, ça leur parle pas beaucoup. Et donc, dans une des villes anglaises dans lesquelles ils ont essayé de faire ça, ils se sont dit, mais est-ce que c'est vraiment ça le truc qui rassemble tous les gens? Est-ce que c'est le truc qui pourrait faire passer tous les gens qui sont du côté de la serviette dans l'autre colonne? De leur dire, changement climatique, pic pétrolier, etc. Est-ce que c'est pas le truc qui rassemble tous les gens? Est-ce que le truc qui rassemble tous les gens, c'est pas, par exemple, la bière? Ben si, en fait, c'est ça. On est des Anglais, mais on aime la bière. Et donc, ils ont lancé un projet de micro-brasserie. En disant, mais on en a marre que les bières, ce soit des trucs standardisés à Heineken, Kronenbourg, et que on boive toujours cette merde, et nous, on veut de la vraie bière, de la bière de notre territoire, qu'on a fait nous-mêmes, etc. Donc, et là, tout d'un coup, tout le monde s'est pointé. Parce que tout le monde avait envie d'avoir de la super bonne bière d'à côté de chez soi. Et quand ils ont lancé ce projet, ils se sont dit, mais pourquoi on fait ça simplement pour la bière? C'est vrai aussi pour la nourriture, on achète de la nourriture qui vient de l'autre bout du monde. Donc ça aussi, on pourrait faire ensemble, on pourrait relocaliser la nourriture. Et pourquoi on ne fait pas ça pour l'énergie? On achète du pétrole aux Saoudiens, on achète du gaz aux Russes, et ça pose tous ces problèmes. Pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas notre propre énergie renouvelable sur notre territoire? Et pourquoi on ne fait pas ça pour tout un tas de commerces et d'activités qui ont été prises par les multinationales et qu'on pourrait réentrer sur notre territoire? Et ils ont pu lancer tout ce mouvement parce qu'ils ont commencé par le truc qui intéressait vraiment les gens. Donc, si vous voulez mobiliser les gens autour de vous, il faut trouver les crottes de chien, la bière, de chez vous.
De se nourrir et de se nourrir sainement, parce que la ville de Mansartou propose à ses auteurs une nourriture saine. Nous avons une rencontre à 14h, donc elle signera ses livres après la rencontre de cet après-midi. Voilà. Merci à tous.